Principes et motifs du plan de constitution, partie 4. Maintenant, puisque la seule méthode qui tend à faire choisir ceux que la majorité a déclarés les plus dignes ne peut être employée, puisque les autres méthodes peuvent conduire seulement à faire connaître ceux qu'une majorité plus grande juge très dignes de la place, nous avons dû choisir, parmi ces méthodes, la plus praticable, la plus simple, la moins sujette à être influencée par les partis et par l'intrigue, celle enfin par laquelle on pouvait le plus sûrement arriver au seul but auquel il soit possible d'aspirer. Dans celle que nous avons préférée, le vœu de chaque assemblée primaire est porté au chef-lieu du département pour y former le vœu général des citoyens du département et le vœu des citoyens de chaque département porté au lieu où réside le corps législatif peut y former ensuite le vœu commun des citoyens de la République entière. Quel que soit le nombre des places à remplir pour une seule et même fonction, chaque citoyen n'aura que deux fois à émettre son vœu. L'une pour former une liste de candidats dont le nombre est fixé, l'autre pour terminer l'élection. Dans ce premier vœu, il inscrira un nombre déterminé de noms. Par exemple, s'il s'agit d'élire dans un département les députés à l'Assemblée nationale, chaque citoyen inscrira un nombre de noms égal à celui des députés. La liste des candidats, qui seront en nombre triple, sera formée de ceux qui auront obtenu le plus de voix. Et c'est entre ces candidats seuls qu'il faudra choisir. Ainsi, le nombre des députés étant 10, les 30 citoyens qui auront le plus de voix par ce premier vœu formeront seuls la liste des candidats. Pour former le second vœu, chaque citoyen nommera d'abord, parmi les candidats, ceux qu'il juge les plus dignes, en nombre égal à celui des places, et ensuite ceux qu'il croit aussi les plus dignes, après ces premiers, en nombre encore égal à celui des places. Ainsi, par exemple, si le nombre des places est 10, chaque citoyen nommera d'abord les 10 plus dignes entre les 30 candidats et ensuite les 10 plus dignes entre les 20 qui restent. On formera d'abord le résultat de ces premières voix et ceux qui auront obtenu la majorité absolue ou, si leur nombre surpasse celui des places, ceux qui auront obtenu une majorité plus grande seront élus. Si, par le résultat des premières voix, la totalité des places n'est pas remplie, alors on aura égard aux secondes et, d'après le résultat général, ceux qui auront obtenu une majorité plus grande seront élus. Car, dans cette forme d'élection, il y a nécessairement un nombre de candidats égal au moins à celui des places qui, lorsqu'on réunit les deux listes, obtiennent la majorité absolue. Ainsi, supposons que le nombre des places soit toujours 10. On aura égard d'abord aux 10 premières voix, et le nombre des électeurs étant 1000, par exemple, comme ils y auront énoncé ou écrit 10 000 noms, on voit que 19 candidats peuvent avoir obtenu plus de 501 suffrages, et qu'ainsi, ces premières voix seules peuvent terminer l'élection et même donner lieu à préférer entre ceux qui ont la majorité absolue les candidats qui ont obtenu le plus de voix. Mais aussi, il est possible qu'aucun n'obtienne la majorité, puisqu'il peut arriver que de 30 candidats, les uns n'obtiennent que 334 voix et les autres 333. Alors, on aurait recours aux secondes voix, à la liste subsidiaire. Et, comme chaque électeur a énoncé 20 noms, la masse entière sera 20 000 dans la même hypothèse. Supposons donc que 9 personnes aient réuni l'unanimité, qu'elles emportent 9 000 voix. On voit que les 11 000 voix restantes ne peuvent se partager entre les 21 candidats restants, sans que l'un d'eux, au moins, ait eu plus de 500 voix et obtenu la majorité absolue. Ce mode d'élire n'exige des citoyens que des opérations très courtes, très peu compliquées, pour lesquelles on peut encore leur offrir des facilités en écartant tout ce qui pourrait embarrasser les hommes les plus simples. Toute la longueur des opérations tombe sur ceux qui sont chargés de former les résultats, soit du vœu des individus, soit de celui des assemblées séparées. Et il existe encore des moyens d'abréger et de faciliter ce travail. Si ensuite on examine la méthode en elle-même, on trouvera qu'en admettant une liste nécessaire de candidats triple du nombre des places, on réduit très peu la limite réelle de l'élection. Presque aucun de ceux vers lesquels le vœu des citoyens aurait pu se porter n'en sera exclu. Il est possible que la liste des candidats ne renferme pas un nombre suffisant de noms, parce que le vœu des citoyens se sera réuni dans un petit nombre d'individus. Dans ce cas, qui ne se présentera jamais. Malgré cette possibilité physique, on aurait, pour terminer l'élection, des moyens simples et conformes à l'esprit de la méthode. Dans l'émission des premières voix pour l'élection définitive, le vœu de chaque citoyen s'exprime de la manière la plus naturelle, la plus simple, la plus complète. En effet, l'idée de faire nommer par des vœux successifs des hommes à qui l'on destine des places absolument égales est absurde en elle-même, parce que, sous l'apparence de conduire à nommer le premier, celui que la majorité préfère à tous les autres, ce qui dans ce cas n'a aucun but utile, elle trompe sur ce résultat même, écarte de celui qu'on doit chercher en ne faisant point tomber le choix sur les hommes qui, dans l'opinion de la majorité, doivent être appelés à remplir une de ces places. Cette même méthode non seulement ne s'oppose pas aux brigues, mais les rend en quelque sorte nécessaires et livre, au hasard, les élections qu'elle ne soumet pas à l'influence des partis. Dans celle que l'on propose ici, ceux qui obtiendraient la place par les premières voix sont nécessairement jugés par la majorité plus dignes d'en occuper une que les autres candidats. Dans les circonstances, au contraire, où l'on sera obligé de recourir à la liste subsidiaire, le vœu de la plus grande majorité indiquera encore ce que cette majorité a préféré. Son vœu ne sera point aussi prononcé en leur faveur, il le sera seulement plus qu'en faveur d'aucun autre. Mais on l'aura obtenu tel qu'il est dans la réalité. Et que gagnerait-on à forcer de le prononcer davantage en apparence, à paraître avoir obtenu un vœu qui n'existe pas? Les suppléants seraient pris d'abord parmi ceux qui, ayant eu la majorité dans les premières voix, auraient été exclus par une majorité plus grande. Et si on a recours pour la totalité ou pour une partie d'entre eux à la liste subsidiaire, ils seraient élus alors même à la simple pluralité. Au reste, ce cas serait très rare, et l'inconvénient qui en résulterait quelquefois pour les derniers suppléants est plus que compensé par la facilité de terminer l'élection par un seul vœu et par un mode de votation aussi prompt que simple. Les élections, se formant ainsi dans les assemblées séparées, seront bien moins exposées à l'intrigue. Il lui serait presque impossible d'empêcher un homme d'un mérite réel d'être placé sur la liste des candidats, si les suffrages doivent naturellement l'y appeler. Il serait également difficile à une cabale d'empêcher la majorité de se réunir en faveur d'un homme supérieur ou de la séduire pour un sujet vraiment indigne. Examinons ensuite cette forme d'élection dans l'hypothèse de deux partis qui divisent les citoyens. En effet, une méthode d'élection qui deviendrait alors vicieuse ne peut être admise dans une bonne constitution. Car s'il est possible d'en écarter les partis politiques, il ne l'est pas d'empêcher les partis d'opinion de s'y former et de s'y perpétuer. Or, dans cette hypothèse, la méthode que nous proposons offre au contraire des avantages très réels. D'abord, le parti le plus nombreux doit nécessairement placer dans la liste des candidats un nombre des hommes qui lui conviennent, au moins égal à celui que le parti opposé pourrait y introduire. Mais le premier pourra difficilement s'emparer de la liste entière. Cette liste n'offrira donc point le spectacle, toujours affligeant, de la puissance d'un parti. Ensuite, dans l'élection même, il suffira, pour assurer la prépondérance du parti le plus nombreux, qu'il ait obtenu sur la liste un nombre de noms égal à celui des places. Il aura donc nécessairement l'avantage, sans avoir besoin d'employer aucun de ses moyens corrupteurs ou contraires à la tranquillité publique, dont l'usage, longtemps continué dans un pays, finit par y égarer l'esprit public et y mettre la liberté en péril. Il arrivera tout au plus qu'une portion des places sera donnée aux hommes des deux partis, qui, par leur caractère ou leur sagesse, ont obtenu l'estime ou l'indulgence du parti contraire. C'est-à-dire à ceux qui, pouvant tenir entre eux une balance utile, empêchent les querelles de partis de dégénérer en division funeste. En un mot, cette forme d'élection, ôtant au parti le moins nombreux l'espoir de réussir par la séduction ou par le bruit, donnant au parti contraire une assurance du succès qui le dispense de se servir de ses forces, les élections seront nécessairement encore paisibles, même quand les citoyens seront divisés. Elles serviront à indiquer la puissance des partis, mais elles ne seront point leur ouvrage. Les députés, formant le corps législatif, sont élus dans chaque département et le nombre en est fixé d'après la population seule. C'est encore un hommage rendu à l'égalité. La disposition qui donnait 3 députés à chaque département, tandis qu'un tiers du total était distribué à raison des contributions, corrigeait sans doute l'avantage que cette dernière combinaison offrait aux départements plus riches. Mais nous avons mieux aimé n'introduire aucune inégalité que d'en avoir une à compenser. L'idée de faire choisir le Conseil national par l'universalité des citoyens devient très praticable en suivant cette méthode d'élire, modifiée seulement par la nécessité d'avoir une liste de candidats proportionnellement plus nombreuse lorsqu'il s'agit d'une place unique, et par celle de pouvoir nommer à la fois plusieurs suppléants pour chaque place. Or, il nous a paru très important que ces premiers agents des pouvoirs nationaux fussent choisis par les citoyens eux-mêmes, que la renommée seule présidât à ce choix, que la brigue en fût écartée, et qu'enfin, comme on y aurait été exposé si l'Assemblée des représentants du peuple ou un corps unique eût été chargée de cette élection, ces places ne parussent plus réservées presque uniquement aux habitants d'une seule cité. Il est bon que les hommes, dont un des premiers devoirs est de resserrer l'union intime de toutes les parties de la République, appartiennent également à toutes. Il est bon que les hommes qui traitent des intérêts de la patrie avec les nations étrangères se montrent à elles investis de la confiance immédiate de la majorité des citoyens. La votation à haute voix ne peut être admise dans les assemblées primaires sans y jeter du désordre et de la confusion. D'ailleurs, l'inconvénient de donner à ceux qui votent les premiers une sorte d'influence sur la voix de ceux qui les suivent suffirait pour faire rejeter ce mode d'élire. Il suppose, de plus, une assemblée permanente pendant toute la durée de la votation, ce qui serait imposer aux citoyens une gêne inutile. Mais le scrutin écrit n'est pas nécessairement un scrutin secret. Le nom de chaque citoyen peut être attaché à son vœu écrit, et l'on peut lire ses noms en formant le dépouillement des scrutins. Nous proposons que le scrutin soit accompagné du nom des votants, dans le vœu qui sert à former la liste des candidats. Il nous a paru qu'il n'y avait aucun inconvénient à ce que chacun répondît de cette partie de son choix à l'opinion publique. Mais nous avons pensé en même temps que l'on ne devait point connaître les noms des votants dans le scrutin d'élection. Dans le premier, qui est une simple indication, il ne peut être dangereux pour la chose publique que les votants placent quelques noms d'après des considérations personnelles. En ne lisant les noms qu'après que l'élection est terminée, elle n'est point influencée par les murmures, les signes de désapprobation que certains noms peuvent exciter, et la publicité de ce premier vœu peut être utile aux mœurs nationales, sans nuire à la tranquillité des individus, sans donner trop de pouvoir à l'intrigue. D'ailleurs, un vœu de présentation, renfermant l'opinion des citoyens sur les meilleurs choix à faire, il peut être bon que celle des hommes qui ont mérité la confiance ne reste pas inconnue. Il peut être utile que ceux qui ne connaissent pas assez par eux-mêmes les hommes dignes des places puissent se diriger d'après le jugement avoué et public de citoyens dont ils respectent la probité et les lumières. Et c'est une raison de plus pour préférer le scrutin écrit et signé au vote à voix haute, dans lequel chaque citoyen ne connaît le vœu que des membres de la même assemblée. Le second vœu, au contraire, est un vœu de préférence, et, par cette raison seule, il est bon de le soustraire à toute espèce d'influence, de le rendre indépendant et de l'opinion publique et des engagements qu'on a pu prendre par faiblesse, de faire en sorte qu'il soit l'expression la plus libre de la volonté de ceux qui le forment. La simplicité des formes d'élection a permis de les renouveler fréquemment. L'utilité de conserver les mêmes principes d'administration, de suivre avec constance les mesures une fois adoptées, doit céder au danger d'user la confiance des citoyens. Et, dans une nation vraiment libre, c'est dans les principes mêmes du peuple qu'il faut chercher la base de cette constance si nécessaire. Et, quels sont les principes du peuple français? C'est l'amour de la liberté, commun à toutes les nations que l'esclavage n'a pas avili, et l'amour de l'égalité, qui forme en quelque sorte son caractère particulier. C'est le respect pour les droits des hommes, consacré dans une déclaration où le citoyen apprend à connaître ce qu'il a droit d'attendre de tous, ce que tous ont droit d'exiger de lui. Or, ces principes bien connus, bien développés, suffisent pour donner à toutes les lois, à tous les actes d'administration, cette constance qu'on attendrait en vain de la longue durée de quelques fonctions. En établissant ce renouvellement fréquent, nous avons cru ne devoir mettre aucune borne à la rééligibilité. Ces limites pouvaient être utiles lorsque les choix étaient confiés à des corps électoraux. Mais dès qu'ils le sont aux citoyens eux-mêmes, une liberté illimitée est, sinon une conséquence de la souveraineté nationale, du moins un hommage que la loi doit rendre à la majesté du peuple, une marque de confiance dont son courage pour la défense de la liberté l'a rendu digne. Les précautions jalouses seraient un outrage à son zèle pour le maintien de ses droits. Cette rééligibilité est d'ailleurs utile pour contrebalancer les inconvénients d'une grande mobilité dans les places. Ces deux institutions paraissent liées entre elles et ne devoir jamais être séparées. Le renouvellement par moitié du conseil exécutif et des directoires de département, et l'obligation qui leur est imposée de prendre encore toutes leurs décisions, corrige encore les dangers de cette mobilité si nécessaire, puisqu'il serait dangereux que la durée des places excédât celle de la confiance, seul pouvoir réel dans les constitutions vraiment libres. Et c'est pour avoir cherché à en établir d'autres que tant de constitutions, malgré leur forme républicaine, n'ont offert qu'une apparence de liberté et n'ont jamais pu obtenir qu'une existence orageuse et passagère. Dans les relations extérieures, aucune négociation ne peut être même commencée, aucune convention même préliminaire ne peut être provisoirement exécutée que par la volonté expresse de l'Assemblée nationale, assujettie seulement à recevoir du Conseil exécutif la connaissance officielle des faits qu'il peut seul lui donner. Ainsi, ce Conseil ne pourra employer son pouvoir à l'extérieur pour franchir les bornes étroites où celui qu'il exerce dans l'intérieur est resserré. Et nous avons encore évité ce danger auquel la liberté a été exposée dans d'autres constitutions, auquel même elle a si souvent succombé. La guerre ne peut être prononcée par le corps législatif qu'en vertu d'une délibération prise par un scrutin signé, une résolution qui soumet à la fois plus d'un peuple à des calamités nécessaires, doit soumettre ceux qui l'ont provoqué ou consenti au jugement de l'opinion de leurs contemporains, à celui de la postérité. Mais ce n'est pas tout d'avoir établi sur les principes de l'égalité les formes d'une constitution, d'avoir organisé les pouvoirs d'une manière qui assure la liberté et la paix, d'avoir prévenu les projets de l'ambition et de l'esprit de parti par de fréquents renouvellements, par des élections immédiates que leur forme met à l'abri de la brigue, d'avoir offert au peuple des moyens paisibles de réclamer contre les lois qui blessent ses droits ou ses opinions, d'avoir réglé le mode suivant lequel il pourra se donner une constitution nouvelle si la première lui paraît menacer sa liberté. Il fallait encore que les assemblées nationales, plus à portée que les citoyens, de sentir les vices de la constitution, de prévoir les abus auxquels elle peut conduire, eussent le droit d'exposer aux citoyens ses défauts ou ses dangers, et de leur demander s'ils veulent qu'une convention nationale s'occupe des moyens de corriger les uns et de prévenir les autres. Il restait enfin à prévenir le peuple contre les dangers de cette indifférence profonde qui souvent succède aux révolutions, contre l'effet de ces abus lents et secrets qui, à la longue, dépravent les institutions humaines, enfin contre les vices qui doivent corrompre la constitution la mieux combinée lorsque, restant la même, les hommes pour qui elle a été faite ont changé par les progrès même des Lumières et de la civilisation. Nous avons donc cru devoir établir, dans la Constitution, un mode de la soumettre à une réforme, indépendamment de la demande du peuple et à une époque déterminée. Sans doute, le moment d'une telle réforme serait celui d'une commotion intérieure si, tout à coup, on voyait s'élever un corps de représentants revêtu des pouvoirs réunis de faire des lois et de présenter un plan de constitution, puisque cette accumulation d'autorité lui donnerait l'idée de se mettre d'avance au-dessus de cette constitution qu'il va changer. Mais on évitera cet inconvénient en laissant tous les pouvoirs subsister sous leur forme ancienne, jusqu'au moment où la constitution nouvelle aurait été acceptée, en chargeant du soin de la rédiger et de la présenter au peuple, une assemblée moins nombreuse, tenant nécessairement ses séances dans une autre résidence, élue pour cette seule fonction et n'en pouvant exercer aucune autre. Des limites ainsi posées ne peuvent être transgressées. La fonction purement théorique d'examiner une constitution, de la réformer pour la présenter à une acceptation avant laquelle cette constitution n'est encore qu'un ouvrage de philosophie, n'a rien de commun, rien qui puisse se confondre avec la fonction active de faire des lois de détail provisoirement obligatoires et de prendre des mesures d'administration générale immédiatement exécutées. Si la constitution d'un peuple a pour principe l'équilibre de pouvoirs vicieux qui se combattent ou se coalisent entre eux, si elle donne à diverses classes de citoyens des prérogatives qui doivent se balancer mutuellement, si elle établit des pouvoirs longtemps confiés aux mêmes hommes, si elle crée des corps perpétuels, sans doute l'approche de l'examen de cette constitution sera un moment de trouble, parce que ces divers intérêts créés par elle se feront une guerre active et implacable. Mais il n'en est pas de même d'une constitution qui a pour base l'unité d'action, le renouvellement fréquent de tous les fonctionnaires par des élections immédiates et l'égalité la plus entière entre les hommes. Il ne peut être question, dans la confection d'une constitution nouvelle, que de changements dans les formes, de perfectionnement dans l'organisation des assemblées ou des conseils chargés de fonctions publiques, dans la méthode d'en élire les membres, dans le mode suivant lequel ces autorités doivent agir. Quel si grand intérêt pourrait alors produire des troubles? Et tous ceux qui pourraient les désirer ou les tenter ne sont-ils pas contenus par ce principe sacré d'une égalité entière, seule base d'une liberté durable, principe gravé dans le cœur de tous les hommes et qui, conduisant de lui-même à des conséquences claires et à la portée de tous les esprits, ne peut être impunément violé dès qu'une fois il a été reconnu et mis en pratique. Nous nous sommes bornés, dans ce rapport, à exposer les principes généraux qui nous ont guidés et les motifs des dispositions les plus importantes. Une constitution, d'après le sens naturel de ce mot, devrait renfermer toutes les lois qui concernent l'établissement, la formation, l'organisation, les fonctions, le mode d'agir, les limites de tous les pouvoirs sociaux. Mais du moment où l'on attache aux lois renfermées dans la Constitution une irrévocabilité qui leur est propre, du moment où elles ne peuvent être changées comme les autres lois par un pouvoir toujours subsistant dans la société, il devient nécessaire de n'y renfermer parmi les lois relatives au système social que celle dont l'irrévocabilité ne nuirait pas à la marche de ce système, ne forcerait pas à convoquer trop souvent un pouvoir extraordinaire. En même temps, il faut que les changements qui dépendent de la volonté d'un corps législatif unique ne puissent lui permettre d'envahir le pouvoir, de corrompre l'esprit même de la Constitution, en paraissant ne changer que des formes indifférentes. Ce défaut, dans une constitution où le peuple a des moyens légaux d'en obtenir la réforme, conduirait également à des convocations trop fréquentes de convention nationale. Tout ce qui tient au corps législatif, aux limites des pouvoirs, aux élections, aux dispositions nécessaires pour garantir les droits des citoyens, doit donc être développé avec le plus grand détail et déterminé de manière à ne pas laisser craindre que l'action sociale éprouve des lenteurs, des embarras ou des secousses. Une constitution expressément adoptée par les citoyens et renfermant des moyens réguliers de la corriger et de la changer est le seul moyen de soumettre à un ordre régulier et durable une société dont les membres, éclairés sur leurs droits et jaloux de les conserver, viennent de les recouvrer et ont pu craindre de les reperdre encore. Devant ces salutaires dispositions, doivent également disparaître l'enthousiasme et la défiance exagérée, la fureur des partis et la crainte des factions, la pusillanimité pour qui toute agitation est la dissolution de l'État et l'inquiétude qui soupçonne la tyrannie dès qu'elle aperçoit l'ordre ou la paix. Dans toute grande société qui éprouve une révolution, les hommes se partagent en deux classes. Les uns s'occupant avec activité des affaires publiques, par intérêt ou par patriotisme, se montrent dans toutes les disputes d'opinion, se distribuent dans toutes les factions, se divisent entre les partis. On les croirait la nation entière, tandis que souvent, ils n'en sont qu'une faible portion. Les autres, livrés à leurs travaux, retenus dans leurs occupations personnelles par la nécessité ou l'amour du repos, aiment leur pays sans chercher à le gouverner et servent la patrie sans vouloir y faire dominer leur opinion ou leur parti. Forcés ou de se partager entre des factions, de donner leur confiance à des chefs d'opinion ou de se réduire à l'inaction et au silence, ils ont besoin qu'une constitution leur montre d'une manière certaine quel est leur intérêt et leur devoir, afin qu'ils puissent apprendre, sans peine, vers quel but ils doivent réunir leurs efforts et dès qu'une fois leur masse imposante s'est dirigée vers ce but commun, la portion active des citoyens cesse de paraître le peuple entier. Dès lors, les individus ne sont plus rien, et la nation seule existe. Ainsi, l'on doit s'attendre que tous ceux dont la vanité, l'ambition ou l'avidité ont besoin de troubles, tous ceux qui craignent que l'établissement d'un ordre paisible ne les replonge dans la foule ou l'estime publique ne les suivrait pas, tous ceux qui peuvent être quelque chose dans un parti et ne peuvent rien être dans une nation, on doit s'attendre que tous ces hommes uniront leurs efforts pour retarder, pour troubler, pour empêcher peut-être l'établissement d'une constitution nouvelle. Ils seront secondés par ceux qui regrettent quelques portions de ce que la Révolution a détruit, qui disent que la formation d'une république fondée sur l'égalité est impossible, parce qu'ils craignent de la voir s'établir, et par ces hommes plus coupables encore, qui ont calculé que la longue durée de nos divisions pouvait seule donner à nos ennemis étrangers des succès funestes à la liberté. Ainsi, les intrigants de toutes les bannières, les aristocrates de tous les degrés, les conspirateurs de tous les ordres n'auront contre l'établissement d'une constitution nouvelle qu'une même volonté, emploieront les mêmes moyens, parleront le même langage. S'ils ne peuvent attaquer une disposition trop évidemment utile ou sage, ils chercheront des intentions secrètes à ceux qui l'auront proposée ou défendue, car il est plus facile de faire naître un soupçon que de détruire un raisonnement, et il faut moins de talent encore pour trouver une calomnie que pour arranger un sophisme. Mais la Convention détruira ses honteuses espérances. Elle se hâtera de présenter au peuple une constitution digne d'elle et de lui. Elle saura démêler les pièges dont on s'empressera de semer sa route. Les citoyens, qui tous sentent la nécessité d'avoir enfin des lois fixes, s'uniront à elle. Ils n'ignorent pas que la gloire de la Convention, que le sort du reste de la vie des hommes qui la composent, est attaché au succès de ce grand acte de la volonté nationale. C'est par là que la nation, que l'Europe, que la postérité jugera nos intentions et notre conduite. Cette idée soutiendra la confiance du peuple et il prononcera d'après sa raison seule sur le plan que votre sagesse doit soumettre à son autorité souveraine. Quant à nous, nous vous présentons notre travail avec la confiance d'hommes qui ont cherché ce qui était juste, ce qui était utile, sans passion, sans prévention, sans esprit de parti, sans aucun retour d'intérêt ou de vanité, mais avec cette défiance de nous-mêmes que devait nous inspirer et la difficulté d'un tel ouvrage et toutes celles dont les circonstances actuelles ont pu l'environner. La souveraineté du peuple, l'égalité entre les hommes, l'unité de la République, tels sont les principes qui, toujours présents à notre pensée, nous ont guidés dans le choix des combinaisons que nous avons adoptées. Et nous avons cru que la Constitution la meilleure en elle-même, la plus conforme à l'esprit actuel de la nation, serait celle où ces principes seront le plus respectés. Français, nous vous devons la vérité entière. Vainement, une constitution simple et bien combinée, acceptée par vous, assurerait vos droits. Vous ne connaîtrez ni la paix, ni le bonheur, ni même la liberté, si la soumission à ces lois que le peuple se sera donné, n'est pour chaque citoyen le premier de ses devoirs. Si ce respect scrupuleux pour la loi, qui caractérise les peuples libres, ne s'étend pas à celle même dont l'intérêt public ferait solliciter la réforme. Si, chargé de choisir les dépositaires de toutes les autorités, vous cédez au murmure de la calomnie, au lieu d'écouter la voix de la renommée. Si une défiance injuste condamne les vertus et les talents à la retraite et au silence. Si vous croyez les accusateurs, au lieu de juger les accusations. Si vous préférez la médiocrité qu'épargne l'envie au mérite qu'elle se plaît à persécuter. Si vous jugez les hommes d'après des sentiments qu'il est si facile de feindre, et non d'après une conduite qu'il est difficile de soutenir. Si enfin, par une coupable indifférence, les citoyens n'exercent pas avec tranquillité, avec zèle, avec dignité, les fonctions importantes que la loi leur a réservées. Où seraient la liberté et l'égalité si la loi qui règle les droits communs à tous n'était également respectée? Et quelle paix, quel bonheur pourrait espérer un peuple dont l'imprudence et l'incurie abandonneraient ses intérêts à des hommes incapables ou corrompus? Quelques défauts, au contraire, que renferme une constitution, si elle offre des moyens de la réformer à un peuple ami des lois, à des citoyens occupés des intérêts, dociles à la voix de la raison, bientôt ces défauts seront réparés, avant même qu'ils aient pu nuire. Ainsi, la nature, qui a voulu que chaque peuple fut l'arbitre de ses lois, l'a rendu également l'arbitre de sa prospérité et de son bonheur.